Bonjour, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Ah oui, c'est vrai, du coup c'est un peu la récré pour moi, juste un culte, un dimanche. Non mais vous rassurez-vous, c'est une saison, le Seigneur nous bénit au sein de cette communauté. C'est une croissance ultra rapide, c'est juste incroyable. C'est génial, mais ça amène plein de défis aussi. Et Dieu merci, on va pas continuer cinq cultes très longtemps, parce que là c'est physiquement un peu usant. Mais on a un nouveau local qui arrive là cet été. Donc normalement, voilà, on va passer à deux et peut-être trois cultes, on verra. Mais voilà, c'est juste génial. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de me rendre compte, et j'ai de la chance et je remercie le Seigneur pour ça, mais c'est tellement une joie d'être avec vous aussi. On dit ça, vous savez, on prend la parole et puis l'orateur il commence, il dit oui, je suis très heureux d'être avec vous, puis en fait peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est une joie sincère. J'étais au fond là pendant le temps, et j'aime voir en fait on se connaît pas, on s'est jamais vu, la plupart d'entre vous, sauf ceux qui étaient là hier et avec qui on a passé la journée. Mais ce qui m'interpelle toujours, c'est de me sentir de la famille, en fait. Je me sens pas un inconnu, je me sens pas juste un numéro. On a des arrière-plans différents, on a des histoires différentes, on a même une culture différente. Pardonnez, en français, voilà. Je sais que par rapport aux Suisses, les Français, on est connus pour notre grande humilité, par exemple. Voilà, hein. Mais le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous travaille, hein. Seigneur, plus de toi, Saint-Esprit, hein. Ouais, il y a du boulot, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, ce qui est juste génial, c'est que je me sens vraiment appartenir au même corps que vous. On est membres les uns des autres. Et c'est cette famille qui se réunit, qui rend un culte. Je partageais avec l'équipe là, en démarrant ce matin, alors qu'on priait, je nous rappelais qu'on vient pas à l'église, on vient pas au culte, on vient rendre un culte. On est une famille qui se rassemble et qui décide de prendre un temps et de dire l'Éternel est digne. Regardez tous les chants qu'on a chantés, on se tourne vers l'Éternel. On a eu des saisons, et en tant que conducteur de louange, je dois, c'est vrai, confesser qu'il y a des choses que l'on fait là quand on est devant qui sont des fois pas super top, en fait. Où on est très, Seigneur, bénis-moi, moi je, on est très sur juste nos besoins, etc. Et je crois, oui, il y a des temps où on a besoin de Dieu, heureusement. On a besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de l'Éternel, c'est clair, dans tous les aspects de ma vie, c'est évident. Mais j'aime me rappeler que mettre ce temps à part, ce dimanche matin, ou peu importe quel moment de la semaine, dans différentes communautés, mais il y a une communauté, il y a une famille qui se rassemble et qui met Dieu au centre, et qui cherche son cœur, qui cherche sa face, et qui lui rend un culte, qui dit « Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom soit toute la gloire ». Qui rejoint cette adoration qui est dans le ciel, qu'on peut lire dans Apocalypse 4, dans Apocalypse 5. Des fois, si vous, un petit tips, une petite aide. Si vous ennuyez dans un temps de louange, ça vous arrive jamais. Moi, ça m'arrive jamais. Non, jamais. Ouvrez vos Bibles. Apocalypse 4, Apocalypse 5. Et lisez juste ce qui se passe dans le ciel. Lisez l'adoration qui est dans le ciel. La vision que Jean a eue. Et laissez-vous juste émerveiller. Rappelez-vous qu'il s'agit pas juste de vous et de votre ressenti, mais lorsqu'on est en train de nos bouches de proclamer qui est Dieu, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Ouais, voilà, petit encouragement. Donc voilà, je m'appelle Pierre Nicolas, je viens de Paris. J'ai grandi au sein des Fabricants de Joie, ministère de jeunesse en mission. Et voilà, j'ai rencontré mon épouse aussi, Jem, on avait 17 ans, on s'est mariés à 21 ans. Et aujourd'hui, on a 4 enfants, Tobias qui a 15 ans, Emma qui a 13, Héloïse qui a bientôt 11 ans, et un petit Mathis, un petit dernier, le cliché, la petite surprise, pas prévue, mais en fait, on était quand même contents qu'il soit là, qui va avoir 6 ans là dans quelques semaines. Donc je suis investi, j'étais à temps plein, j'ai travaillé dans la banque d'abord, je vous raconte ma vie vite fait, mais c'est juste pour briser un peu la glace, comme ça, je suis rien ni personne, je suis quelqu'un comme vous, tout à fait normal, et c'est juste une joie, et je me sens honoré de pouvoir juste partager un peu ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour vous ce matin. Mais voilà, juste un peu un petit icebreaker. ouais, donc j'ai grandi donc à Paris, j'étais à temps plein après avoir travaillé dans la banque, je savais que c'était pas mon appel. Seigneur avait quelque chose pour moi. On voulait aller faire une école de jeunesse en mission avec mon épouse, et le Seigneur a dit non, église locale. Ah, oh, OK. Et donc, on s'est investi au sein de notre église locale à Paris-Belleville, un quartier, on entend un peu parler de ce quartier en ce moment à Paris, parce qu'avec le fameux virus machin là, c'est le quartier chinois. Il y a beaucoup de Chinois dans ce coin-là, et en ce moment, le quartier, il est un peu désert. Bref, je passe la parenthèse. Ouais, ouais. On pourrait prier pour ça, hein. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de nous dire avec ces histoires de virus, mais il n'y a pas de hasard non plus. J'espère que vous priez pour ça. Si c'est pas l'Église qui prie pour ça, qui prie pour ça? Je pense qu'il y a quand même quelque chose. J'ai pas prévu de dire ça, mais voilà. Peut-être qu'on prendra un temps à la fin du culte pour prier pour ça, d'ailleurs. Donc voilà, Paris-Belleville. Et on a été, c'était super. Je m'occupais de la louange. C'était assez rigolo parce que j'étais responsable de la louange à 25, j'avais 25-26 ans. Dans mon équipe de louange, j'avais par exemple une certaine Corinne Lafitte. C'est le monde à l'envers, quoi. C'était assez rigolo. Entre autres, j'avais lu, enfin voilà, différentes personnes. J'ai grandi aussi avec Samuel Olivier. Je sais pas si on chante beaucoup de ses chants. Voilà. Et puis le Seigneur nous a conduits de différentes façons. Il y a eu un moment dans ma vie, après ces 3 ans à temps plein au sein de l'église de Belleville, je suis passé par un moment où ça a été très compliqué. En fait, j'ai fini, vous savez, avec la fameuse maladie de ce siècle, le fameux burn-out. Et ça a été très très compliqué. Et j'ai jamais remis en cause Dieu. Par contre, j'ai commencé un peu à remettre en cause l'Église, à commencer à en remettre en cause tout ce qu'on est en train de faire là, souvent le dimanche matin. Et ça a été un long travail. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que c'était une joie d'être avec vous, c'était une joie de me sentir appartenir de la même famille, parce que l'Église, c'est une famille. C'est pas juste une réunion. C'est pas juste un moment où il y a des gens sur une estrade, où il y a des professionnels de la foi qui exercent quelque chose pour vous. En fait, Dieu donne juste des dons, des talents, et vous avez chacun des dons, des talents. Dieu a des appels, a un appel précis pour chacune de vos vies. J'ai envie de vous dire ce matin, est-ce que vous prenez votre place? Est-ce que vous êtes à votre place? Amen. C'est facile de juste venir s'asseoir et de regarder, et puis de dire, ah, c'est bien, ah, non, c'était pas bien. Et puis on crée un peu des fois une culture qui est peut-être pas forcément ce que Dieu nous a demandé, en fait, dès le départ. La famille, elle a besoin d'être vivante. Une famille sans vie, on s'ennuie. Et l'Église, on peut pas s'ennuyer avec un Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, on peut pas s'ennuyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de m'éloigner. Pendant ce temps qui était, où je vous ai parlé que j'étais donc à temps plein, et pendant ce temps où... il y a une grosse remise en question. Le Seigneur est venu me parler avec un passage que je voudrais qu'on regarde ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Et on va lire à partir du verset 34. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Pourquoi j'ai commencé à vous parler de moi et de mon petit vécu, voilà, à mon petit niveau. Être à temps plein dans une église, responsable de la louange, payé en plus par une église, en France, il y a 15 ans en arrière, c'était pas forcément quelque chose de très courant. Peut-être vous, en Suisse, c'est quelque chose qui est plus courant et plus facile. En France, c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout courant. Ça l'est de plus en plus, mais c'est encore à un petit niveau, en fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si c'est une fin en soi. Je sais pas ce que le Seigneur a prévu. On verra bien. Bref. Et j'étais vraiment dans l'activisme. Tout le temps, il fallait faire. Et puis, comme vous êtes à temps plein pour l'Église... Tu veux savoir de quoi je vais parler? Comme on est à temps plein pour l'église, les gens pensent que, en fait, vous n'avez pas de vrai boulot. Vous n'avez pas un vrai métier. T'es à temps plein pour l'église, c'est pas un vrai métier. t'as le temps de faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai un vrai, enfin, les autres disent, oui, moi, j'ai un vrai métier. Toi, t'as connu, t'as travaillé dans la banque, t'avais un vrai métier. Là, maintenant, t'es à l'église, c'est pas un vrai métier, quoi. Ah ouais. En fait, j'ai jamais, en fait, ce qui était compliqué pour moi, et c'était une des raisons de mon burn-out, entre guillemets, en fait, c'est que, il n'y avait plus vraiment de différence entre vie privée, vie publique, entre guillemets, ministère, pas ministère. On passe son temps à prier pour les autres, à écouter Dieu pour les autres, à préparer des temps de louange. Dès qu'il y a une réunion, ah, c'est bon, il y a Pierre-Nicolas, hop, c'est comme si on prenait une télécommande et hop, t'appuies sur play, tch, ça va partir, fou, temps de louange. Et en fait, je me suis senti juste un fonctionnaire de l'église. Ça a été super compliqué. Et il y a un moment, j'étais vide, j'étais sec. Il n'y avait plus rien. J'étais pressé comme un citron, il n'y avait plus rien. Et le Seigneur est venu me parler avec ce passage où en fait je me souviens et je partageais ça avec l'équipe hier. J'ai démarré avec ça hier. Je me souviens d'un soir, je suis rentré d'une réunion à la maison et je croise un de mes voisins dans mon immeuble à Paris et ce monsieur avait envie de discuter avec moi et pourtant il était 23h. Et je sentais qu'il avait besoin de parler. Et dans ma tête, je me souviens très bien, j'ai pensé, ça sert à rien que je parle avec lui, il ne peut pas comprendre ce que je vis. Aujourd'hui, je vous dis ça et je ne suis pas très fier de moi. Parce que je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai raté, quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Être dans ma bulle église, dans ma petite sphère église, dans mes petites habitudes église, aimer Dieu de tout mon cœur, avoir été... J'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est comme si j'avais été programmé pour ça, avec un appel au niveau de conduire la louange. Ok, j'étais à fond dans mon appel, génial, on vivait des choses super, l'église en pleine croissance, c'était vraiment, franchement, génial. Enfin, ça se présentait super bien. Mais j'ai explosé en vol. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que... C'est pas possible, je suis à ton service, c'est toi que je sers, je te donne ma vie, je t'ai donné ma vie... Je t'ai donné mes enfants et je finis dans cet état-là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a ouvert. On est parti pendant une année aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est pas le meilleur endroit. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, la Suisse, j'aime bien aussi. Si le Seigneur m'avait dit, viens en Suisse. Amen. Paris, c'est bien aussi. Mais donc on a pris ce temps et le Seigneur venait sans cesse avec ce passage. Et aimer Dieu de tout mon cœur, super. Et regardez ce que Jésus nous dit. Il dit, voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Importance semblable. C'est pareil. C'est pas genre, c'est un peu comme t'as envie ou c'est plus important. Non, c'est semblable. C'est pareil. Aimer son prochain comme soi-même. C'est intéressant si on regarde dans le Nouveau Testament. Alors vous savez, donc je suis conducteur de louange, je vais souvent aider et faire des week-ends sur la louange dans différentes communautés, différents endroits, etc. Vous avez vu comment ce qu'on appelle la louange, et derrière le mot louange, on met beaucoup de choses et on met notamment la musique. Et vous avez vu ce matin, on a pris beaucoup de temps, on prend beaucoup de temps dans nos rassemblements à chanter, à ce qu'on dit à louer l'Éternel. Et c'est génial, c'est super, c'est enfin, moi, je suis le premier. Yes, on y va. On ouvre nos bouches, on fait résonner nos instruments. Enfin, c'est carrément biblique. Hein. Je vais pas vous sortir tous les psaumes et tout, mais c'est complètement biblique. Et il y a quelque chose aussi que le Seigneur est en train de faire depuis des années dans ce monde, en train de redonner les instruments depuis 60, un peu plus. Ouais, pendant des années, l'expression de louange a été très monotone. C'était toujours la même chose, soit juste une personne qui chante, un orgue. Enfin voilà. Et pourquoi depuis 40, 50, 60 ans, le Seigneur est en train de refaire revenir les instruments? Il y a un élan, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Je suis pas là pour parler de ça ce matin, mais on peut ouvrir nos yeux et voir, oui, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le problème, c'est que souvent, on s'endort ou on pense pour acquis et on reste sur ces choses-là et on sait plus pourquoi on fait les choses. Et moi, je me suis trouvé à cet endroit-là. Je me suis retrouvé à cet endroit-là où, en fait, comme je vous ai dit, on appuyait sur play et il fallait que quelque chose sorte. Mais il y a quelque chose qui manquait, il y a une dimension qui manquait à ma vie de louange et qui faisait que j'étais complètement sec. Et donc, le Seigneur est venu me parler avec ce passage. Et quand j'interviens dans les groupes de louange, c'est quelque chose que j'essaye de communiquer au maximum. Mais ce matin, je sens que c'est aussi pour vous quelque chose, en tant qu'Église, à nous rappeler, à vous rappeler. Il y a deux mots qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour le mot louange. Donc je parle vraiment du Nouveau Testament, d'accord? Donc c'est des mots en grec. Je suis pas un prof de grec, vous inquiétez pas. Mais quand on regarde, il y a un premier mot qui est le plus souvent là, qui est utilisé 61 fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot proskuneo pour le mot louange. On le retrouve par exemple quand Jésus avec la femme samaritaine, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, proskuneo, l'adorent en esprit et en vérité. On connaît tous ce passage. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce passage. On l'a vu avec les étudiants hier, mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, c'est le mot proskuneo. Et proskuneo, ça veut dire s'approcher de quelqu'un pour l'embrasser avec respect. Ça, c'est peut-être la dimension de la louange qu'on connaît et qu'on pratique le plus. On vient avec respect devant Dieu, on vient l'adorer, on vient avec crainte, avec respect. Ça, c'est cool. C'est acquis, entre guillemets. Ouais. Et il y a un deuxième mot qu'on trouve. Il est utilisé un peu moins souvent, il est utilisé 21 fois. C'est le mot latreo, et on retrouve ça dans Matthieu 4, verset 10, où Jésus dit « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul ». Le mot adorer et service, c'est le même mot, latreo. Et une petite illustration, en France on n'a pas forcément le droit de faire ça, mais si je prenais un billet de 10 francs et que je le mets et que je le plie bien en deux, et que je le déchire au milieu, on est d'accord, ça va faire 5 francs et 5 francs. T'es bête. On est d'accord qu'un billet déchiré, même si je l'ai bien séparé en plein milieu, il n'a plus aucune valeur. On est d'accord. Et en fait, les amis, c'est la même chose, c'est ce que Jésus est en train de nous dire là dans ce passage. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est génial, c'est super. Grandissons dans plus de révélations de qui est Dieu. Grandissons dans la connaissance de l'Éternel, c'est clair. Adorons-le de tout notre être, dédions-lui notre vie. C'est clair, c'est là où on a été créé pour ça. On est créé pour ça, pour être en relation avec Dieu. Mais il y a un moment où ce qu'on vit dans sa présence, ça doit avoir un impact dans notre quotidien. Partout où nous allons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Nous dit l'apôtre Paul. Une habitation sainte où sa présence demeure. Partout où nous allons, nous sommes des temples où nous portons sa présence. Partout. Je leur entendais « Amen » et tout. Regardez un autre texte dans Hébreux 13. Pour regarder avec moi, Hébreux 13. Vous avez tous des smartphones ou quoi? J'entends pas les bibles. Bon, faites comme vous voulez. Hébreux 13, verset 15. Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus notre louange comme un sacrifice. C'est-à-dire louons sans cesse son nom de nos bouches. Et regardez le verset 16 qui nous dit « N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider les uns les autres, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. » Bam, Seigneur, tu reviens encore avec ça dans ma vie, là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Moi, ça a été quelque chose vraiment qui a... Ça s'est même concrétisé de manière concrète dans ma vie. En fait, quand on est revenu des États-Unis, le Seigneur a... Enfin, j'étais là, Seigneur, voilà, à cette époque-là, on avait que deux enfants. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait? Alors, retourner dans la banque, j'avais pris 5 ans, ou voilà, peut-être il aurait fallu que je refasse une formation, quelque chose comme ça. Retourner dans une église à temps plein, il y avait Hillsong Paris qui arrivait à ce moment-là, Brendan, que je connais très bien, Pierre, tu veux pas nous rejoindre? On cherche quelqu'un pour la louange. Ça aurait pu être super, j'aurais pu m'éclater, enfin, avec cet appel en tant que conducteur de louange, ça aurait pu être un bon choix, mais le Seigneur m'a clairement dit non, c'est pas pour toi, ok? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et Seigneur, il a de l'humour. On quittait Paris, troisième enfant arrive, on doit quitter Paris intramuros. Grosse douleur pour un Parisien que je suis, qui est toujours grandi à Paris. Dès que vous passez le périph, de l'autre côté du périph, c'est plus Paris, quoi. C'est trop loin. Mais bon, c'est le cliché, troisième enfant, famille qui s'agrandit, donc faut plus de place, vous allez en banlieue, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Et on cherche, on visite plein d'endroits, on ciblait plutôt le sud de Paris parce que ma maman habite le sud de Paris. Donc je dis, bon, ce serait bien pour les enfants, tout ça, qu'elle soit pas trop loin. Donc on regarde le sud de Paris, mais on trouve rien. Et puis après une trentaine de visites, paf, un appartement en fait qui paye pas forcément de mine, mais on rentre dedans et c'est comme si le Seigneur nous dit, c'est là, Vous avez déjà vécu ça, genre vous entrez et vous avez visité plein de trucs, vous pinaillez sur 2-3 trucs, la maison paraît sympa, mais il y a ça qui va pas, vous en faites tout un plat, vous savez pas pourquoi, avec le recul vous dites c'est bizarre. Mais... Et là cet appartement, il y avait tout à refaire, etc. Mais je sais pas, c'était genre on est entré et c'était là. Le Seigneur disait c'est là, donc on fait une proposition, pouf ça passe très bien et on se retrouve là. Et il se trouve que quelques mois plus tard, je refais une connexion avec un pote que j'avais pas revu depuis un moment. Et qui me dit qu'il cherche quelqu'un, il a démarré une petite structure d'accompagnement et de service à la personne, donc plus dans le social. Et il me dit, ouais, je cherche quelqu'un pour reprendre, je dois partir en Angleterre, etc. Tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Je fais, ouais, non, je vois pas. Et toi, ça t'intéresse pas? Tu fais rien en ce moment, tu cherches quelque chose, ça t'intéresse pas? Non, parle-moi de musique, parle-moi de finances, mais parle-moi de personnes âgées. Non, trouve quelqu'un d'autre. Bon, bah les amis, ça fait en fait 9 ans que j'ai repris sa petite structure. Et qu'en fait, j'ai jamais autant parlé de ma foi, j'ai jamais autant parlé de Jésus, j'ai jamais autant vu Dieu agir dans la vie des gens autour de moi, dans des choses même banales. J'ai jamais été aussi enrichi dans ma vie de louange que depuis que je fais ce boulot-là. Et j'ai même pas l'impression de travailler. C'est ça qui est juste incroyable. Alors je dis pas, allez, venez tous avec moi, séance de recrutement à la sortie du culte. Venez tous à Paris. Non, mais... Je vous partage ça parce que ça a été... On est une génération là, derrière le mot louange, on met beaucoup d'énergie, on met plein de choses sur cet aspect-là. Où il y a voilà une estrade, des lumières, des sonos, puis ça donne lieu à même ouais c'est trop fort, c'est pas assez fort, faut plus travailler, faut plus machin. Enfin, non, c'est pas chez vous, c'est que chez nous ça, c'est pas chez vous. Mais j'aime me rappeler que Dieu nous attend pas juste dans ces moments-là, pas juste le dimanche matin, pas juste dans ce qu'on appelle notre bon petit christianisme. Il nous attend dans notre vie de tous les jours. Je sais pas vous, mais je veux pas juste être connu pour quelqu'un qui, alors moi perso, qui enregistre des albums et qui fait des chansons, voilà. Il y en a qui font d'ailleurs bien mieux que moi. Moi, c'est une partie de mon appel et je remercie le Seigneur pour ce que je vis, c'est génial. Merci Seigneur. Mais je veux me rappeler que c'est pas un but en soi, en fait. Le but de notre vie et même le but de la louange, c'est lui. Romains 11, 36, vous voulez regarder ça avec moi? Ce que nous dit Romains 11, du verset 33 au verset 36. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Et écoutez ça. Car tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Tout vient de lui. J'aurais pu démarrer avec, comme on a fait hier aussi avec l'école de louange, avec Genèse 2, où Dieu prit forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Tout vient de lui, la vie c'est lui qui la donne. Et c'est pas une histoire de chrétien ou pas chrétien. Tout être humain sur cette terre porte cette marque, ce souffle, ce rouar, cet esprit. Chrétien ou pas chrétien. Juste de me rappeler ça, ça a juste changé aussi ma façon de voir les gens à l'extérieur. De voir les gens, et du coup je repensais, je vous ai parlé de mon voisin, que j'avais regardé un peu avec cette pensée qui est venue vers moi en me disant, mais gars, je peux pas partager ma vie, il comprend pas, il pourrait pas comprendre. Comme si... Non mais ça vous arrive pas, c'est que à moi. Comme si en tant que... Parce qu'on est chrétien, on est meilleur que les autres. What? What? Parce qu'on est chrétien, on devrait encore être rempli plus de compassion pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur Créateur. Pourtant, le cœur de l'Éternel bat pour ces gens-là. Et je suis pas un évangéliste, c'est pas mon appel à moi, côté évangéliste. Mais j'ai toujours cru que c'était juste les on parlait de Jean-Claude Serret tout à l'heure, un ami, lui, il a toujours, et comme mon ami à qui j'ai repris la boîte, il a toujours un tract ou une Bible, il est toujours en train de, tout le temps, il s'arrête jamais. Parler de Jésus tout le temps. Des fois, on lui dit, gars, calme-toi. On cherche le bouton on-off, vous savez. Ouais. Non-stop. Donc, il y a des gens, c'est comme ça, c'est cool. Bon, voilà, moi, je croyais que c'était que pour ce genre de personnes, en fait, ce qu'on appelle l'évangélisation. Et en fait, j'ai avec le boulot, ce que je vous ai partagé là, il y a eu un shift, il y a eu un quelque chose qui s'est passé en fait dans ma vie pour. Alors vous allez dire, ah bah, il était peut-être temps que ça t'arrive. C'est peut-être ce que vous pensez. Mais je pense que c'est un défi de nos jours, dans la culture où on est. Derrière le mot louange, on met juste cette notion de chant, on met juste cette notion d'église, de réunion. Et j'aime me rappeler en fait que c'est toute notre vie qui est appelée à être louange. Et qu'en fait, parce qu'on est connecté à sa présence, parce qu'on est connecté au Créateur, déjà un, on est sûr de notre identité en tant que fils et fille. Déjà là, il y a du boulot, enfin je ne sais pas pour vous. Mais bon. On est sûr de notre identité, ça c'est la première chose. Et parce qu'on est sûr de notre identité, on est sûr de notre appel. On n'est pas en train d'essayer de se comparer avec les autres ou à regarder ce que le Seigneur a donné aux uns et puis pas à moi. Mais en fait, on se bénit le Seigneur pour ce qu'il a donné aux autres et on bénit le Seigneur que nous, on puisse grandir et progresser aussi dans ce que lui, il a prévu pour nous et dans ce qu'il nous a donné. Au lieu de regarder seulement ce que les autres ont et ce que nous, on n'a pas. Et puis comme ça, on continue d'avancer et on est des temples ambulants remplis de sa présence, pas remplis juste de nos blessures et de nos frustrations. Mais on libère la présence de Dieu partout où nous allons. Et les amis, il y aurait déjà le réveil si on vivait ça. Je veux nous encourager ce matin à pas juste être des... Je sais que vous n'êtes pas une communauté, je le vois juste dans votre expression de louange. Je sais qu'il y a une crainte de l'Éternel, il y a une soif de sa présence, c'est un fait. Et je veux vous encourager en tant qu'Église à continuer à chercher sa face, à continuer à vous mettre à genoux, de recevoir son cœur. D'être connecté à lui, continuer, chercher, ça commence là. Mais je veux nous encourager à pas juste être des chrétiens du dimanche matin qui cherchons et qui vivons juste ça et qui est dans notre bulle, qui sommes dans notre bulle, déconnectés de ce monde, déconnectés de la réalité. Jésus est venu dans le monde et il a changé le monde. Et il nous a demandé d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Prenez une allumette dans le noir. Un briquet ou peu importe, juste une petite flamme fait juste une énorme différence dans les ténèbres. Allons, remplis de sa présence, là où il y a besoin d'amener sa présence. Arrêtons de fuir les endroits ténébreux. Alors je dis, on y va parce qu'on est rempli de sa présence. Attention, ce que je suis en train de dire. Ne déformez pas ce que je suis en train de dire. Et tous ne sont pas appelés, peut-être à aller dans les endroits ténébreux. Mais si c'est pas l'Église qui va, qui y va? Si c'est pas l'Église qui se lève, qui se lèvera? Alors c'est marrant, vous dites, ah, c'est un conducteur de louange qui est en train de nous dire d'aller à l'extérieur, de vivre la présence de Dieu, pas juste dans les murs d'une église. Ouais, c'est ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Que ce qu'on vive dans sa présence ait un impact dans notre quotidien et bien au-delà, dans nos familles. Et je vais juste terminer, je crois qu'il y a un vrai combat, il y a une vraie guerre au niveau de la louange et de l'adoration. Il y en a un, son plan, on peut lire ça dans Ésaïe 14 ou dans Ézéchiel 28, son plan ça a été de voler la gloire qui était à Dieu, de la prendre pour lui. Son nom c'est Lucifer, ça vous dit quelque chose ? Lucifer, si vous regardez l'étymologie du mot Lucifer, ça veut dire l'astre brillant. Lucifer, c'était un chérubin qui était en charge de la louange dans les lieux célestes. Les chérubins, petite parenthèse, les chérubins, ils marquaient, dans la Bible, quand vous voyez des chérubins, ils marquent la présence de Dieu. On les retrouve sur le coffre de l'Alliance, par exemple. Ou quand Adam et Ève ont été mis hors du jardin, il y a des chérubins qui empêchaient l'entrée dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, là où Dieu a donné ça à Adam et Ève. Et Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc voulu prendre la gloire qui était à Dieu et la prendre pour lui. Et donc il a été déchu. Il a emmené des anges avec lui, qui deviennent des démons. Okay. Et regardez ce qui se passe dans Luc 4, et je vais finir là-dessus et vous laisser. Regardez ce qui se passe dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Et on va juste lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Mes amis, Satan a osé venir voir Jésus, et je ne sais pas si vous aviez fait attention, comment c'est écrit, comment c'est marqué. Il lui demande, Satan demande à Jésus le Fils de Dieu, de se prosterner devant lui, de se mettre à genoux devant lui. Vous avez déjà fait attention à ça? Le plan de l'ennemi, il n'a pas changé. Tout ce qui peut voler comme gloire qui est censé aller à l'Éternel pour la prendre pour lui, il y va. Et je pense que plus, alors c'est peut-être un raisonnement humain qui est peut-être très simplet, mais plus il sait, parce qu'on sait on sait comment ça se termine pour Satan. On sait quelle est la fin. Apocalypse, ça est écrit. On sait que c'est la fin. Donc, quelque part, je me dis, il sait que sa fin est proche. Donc, plus sa fin est proche, plus il accélère pour essayer de penser peut-être qu'il peut contrecarrer les plans de Dieu. S'il a osé venir voir Jésus, est-ce que vous croyez que nous, on n'est pas des proies, entre guillemets, encore plus faciles? S'il a osé venir voir le Fils de Dieu, croyez pas qu'il réclame aussi notre louange, notre adoration? Et que du coup, il y a un choix qui nous est donné. À qui est-ce que ma vie rend gloire? Et c'est intéressant parce que si vous regardez là le dernier verset, quand Jésus répond par les Écritures, il répond par la parole. Et là aussi, mon frère, je te bénis pour ce que tu as prié tout à l'heure par rapport à la parole de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on soit une génération qui soyons encore plus ancrés à connaître celui que nous adorons, à être ancrés dans sa parole. On a besoin de et moi, je suis émerveillé de voir comment est-ce que la parole de Dieu, elle est juste incroyable et comment elle est riche. Et on en a fait une expérience hier avec l'école de louange. Mais, regardez comment ça se termine. Jésus, il répond, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. Ça vous dit rien tout à l'heure, ce que je vous ai déjà partagé, qu'on lit dans Matthieu 4. Mes deux petits mots en grec. Adore, sers, proskuneo, latreo. Jésus, il répond à l'ennemi. Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. On retrouve encore cette notion de ce que je vis dans sa présence, un impact dans mon quotidien. Adorer l'Éternel de tout mon cœur, aimer mon prochain comme moi-même. Alors voilà, Église de Clarence, en ce dimanche, je veux vous encourager à pas juste être des adorateurs le temps de vos retrouvailles en famille, mais que toutes nos vies, que toutes vos vies aient un impact là où Dieu vous a placé. Et il n'y a pas de plus petits, de plus grands endroits. Merci Seigneur pour ceux qui ont des postes, pour les médecins, pour les banquiers, pour les politiciens et qui ont des postes plus visibles, que le Seigneur, on peut prier pour eux aussi. Et merci Seigneur pour les personnes comme moi, par exemple, qui travaillons auprès de personnes âgées. Moi, j'ai pas beaucoup de reconnaissance humaine aux yeux du monde. S'occuper de personnes âgées, c'est peut-être pas super valorisant, quoi. Humainement parlant, c'était plus valorisant de travailler dans la banque et d'être en costard-cravate tous les jours, de rouler en belle voiture, etc. Enfin, humainement parlant, ça pouvait plus taper aux yeux. Mais purée, les amis, quelle joie de quand on est dans son appel, quand on est là où Dieu nous a placés, quand on est à notre place. Il y a des choses juste incroyables et je pourrais passer une journée entière à vous raconter ce que le Seigneur fait. Et c'est pas pour c'est pour le glorifier lui, parce que c'est juste incroyable en fait. Mais je veux juste stimuler votre foi, stimuler votre louange aussi, votre adoration. Soyez une église à genoux, mais aussi une église quand et je termine là-dessus, vraiment je termine. Parce qu'on est dans sa présence, parce qu'on est devant son trône, on est devant le roi des rois. Quand c'est le roi des rois qui parle et qui vous envoie, quand un roi envoie un messager, c'est un autre impact que quand juste le messager il va de lui-même. Combien de fois on va et c'est pas vraiment Dieu qui nous a envoyés. On pense que ça lui ferait plaisir, on pense que c'est un peu notre place, mais c'est pas lui qui nous a envoyés. Ça n'a pas le même impact quand c'est Dieu qui envoie. Ça n'a pas le même impact quand ça vient du trône de Dieu. Alors puisons nos forces dans sa présence et impactons là où Dieu nous a placés. Pas par nos propres forces, c'est lui en nous, c'est son esprit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Partout où nous allons, nous portons sa présence. Amen. Amen. Je veux juste prier. Seigneur, merci pour cette opportunité pour moi ce matin, juste de partager un petit peu de ce que tu fais dans ma vie. Et Seigneur, je prie que ça puisse bénir et impacter mes frères et mes sœurs là dans ce lieu ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire dans cette région, dans ce pays, au travers de cette communauté ici, dans cette ville. Seigneur, je veux prier pour plus de toi et pour plus de ta présence, Seigneur. Je veux prier pour des personnes qui sont remplies de ton esprit, qui savent où est leur identité, qui sont des fils et des filles du roi des rois et qui avancent pleinement dans leur appel. Seigneur, je veux invoquer ton nom sur chacune des personnes qui est dans ce lieu, du plus petit, du plus jeune au plus âgé. Que tu viennes prendre ta place, Seigneur, dans chacun et que chacun puisse te laisser la place. Donne-nous, Seigneur, de nous mettre à genoux, d'être devant ton trône, de te louer, de t'adorer, pas juste le temps d'un dimanche matin. Mais donne-nous d'être remplis de ta présence, que ça déborde, que notre coupe déborde, que nous soyons débordants de ta présence, Seigneur. Chaque jour de notre vie, dans les moindres aspects de notre vie. Afin que tu sois glorifié, parce que tout nous vient de toi, tout est par toi et tout est pour toi, Jésus. À toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.